La parole de Dieu d'aujourd'hui se trouve dans Éphésiens chapitre 1, verset 15-23. Éphésiens 1, verset 15. Chapitre 1, verset 15-23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et de quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom, qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Prions pour pouvoir écouter la parole de Dieu, de vie, et avec une foi sainte, et prions pour l'évêque d'honneur, pour qu'il puisse avoir la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole, et que Dieu oigne ses lèvres. Dieu le Père, aujourd'hui, c'est le dernier culte de l'année 2015. C'est le dernier culte dominical de l'année 2015. Il y a certains qui sont morts cette année, selon ton appel. Et il y a aussi ceux qui sont en vie encore. Soit avec nous tous, et que nous puissions t'adorer en vérité pour te glorifier et pour recevoir ton amour. Ouons les lèvres de ton serviteur, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Je prie au nom de Jésus. C'est le dernier culte dominical de l'année 2015. La plénitude qui remplit tout. La plénitude qui remplit tout. Lisons le résumé des sermons d'aujourd'hui. Dieu est le Créateur. Il créa du néant, fait aussi disparaître ce qu'il créa, les détruit à perpétuité et aussi les conserve à perpétuité. Car tout se fait selon sa volonté. L'Église est le corps de Jésus-Christ et lui est la tête de l'Église. Par conséquent, de même que Jésus mourut et fut ressuscité, c'est la volonté de Dieu. Qu'il en soit de même pour l'Église. Si l'Église, la famille, l'âme sont parfaites par Jésus, tout est parfait. Et si elles sont remplies de Jésus, toute activité ont sa plénitude. C'est ce que Dieu veut. Soyons vraiment parfaits par la parole. Soyez parfaits comme la parole qui créa toutes choses, les remplit parfaites. Dieu veut que tous ceux qui sont en Jésus obtiennent la résurrection comme Jésus. Ne devenons pas des religieux par la culture du caractère, mais soyons régénérés par Jésus et recevons la bénédiction qu'il réclame pour nous. S'éloigner de l'Église, c'est rejeter ce qui doit s'accomplir en soi. Ayez donc la plénitude. Dieu est le Créateur qui a créé toutes choses. On n'a pas vu Dieu le Père, mais ce que Dieu a créé, c'est-à-dire toutes choses créées par lui, et c'est ce que nous voyons, et c'est ce que nous utilisons, et c'est ce que cela en qui nous figurons. Alors par ce, nous pouvons connaître Jésus, nous pouvons connaître le Dieu qui est le Créateur et nous croyons en lui. Les gens de ce monde utilisent le mot nature. La nature signifie de par soi-même, mais rien est né de par soi-même. Dans le christianisme, on ne peut pas utiliser le mot nature. C'est parce que Dieu a créé toutes choses. Les choses visibles et invisibles ont été créées toutes par Dieu le Père. Parmi les créatures de Dieu, lorsqu'on voit des céréales, des herbes, et alors en fait, elles poussent au printemps, en été, elles deviennent, elles donnent beaucoup de fruits, en automne, on peut récolter, et en hiver, et elles meurent. Voilà, donc la naissance, la mort de la nature, des plantes. Et puis pour les insectes aussi, en été, elles apparaissent et en hiver, elles disparaissent et elles réapparaissent l'année prochaine. C'est comme ça que toutes choses fonctionnent. Alors, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Bien que le froid soit très rude, les petits insectes qui sont très faibles peuvent vivre. Et la racine des plantes qui étaient mortes peut réapparaître. Alors, si on voit le fonctionnement de toutes choses, on peut connaître l'existence de Dieu vivant. Parce que si Dieu n'existe pas, ce genre de choses ne peut pas arriver. Donc, toutes choses ont été données par Dieu. Donc, notre foi, qu'est-ce que c'est? Il suffit de venir à l'église avec zèle, avec une conviction ferme et avec une volonté forte ou bien avec des émotions variées. Et est-ce qu'on peut maintenir la foi avec cela? Non, ce n'est pas une vraie foi. La foi que nous avons, qu'est-ce que c'est? Et quel est l'objet de notre foi? Il faut que nous connaissions l'objet de notre foi. Ensuite, il faut qu'on croit en lui. Nous croyons donc en Dieu. Et en fait, il ne faut pas cultiver simplement notre caractère en venant à l'église. Il ne faut pas tout simplement méditer ou bien nous entraîner, nous cultiver en venant à l'église. Il faut que nous ayons une foi certaine qui croit en Dieu. Verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Il faut que nous connaissions Dieu à travers Dieu lui-même, parce que la connaissance humaine ne nous permet pas de connaître Dieu. La civilisation, la science ne nous permettent pas de connaître Dieu. Et c'est pourquoi il faut que nous ayons la sagesse donnée par Dieu, et il faut aussi l'inspiration donnée par Dieu, et cela nous permettra de le connaître. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Donc, il faut être capable de connaître Dieu via Dieu lui-même. Moi, en fait, j'ai pas de connaissance, j'ai pas de puissance remarquable. Mais Dieu m'a appelé, et Dieu m'a pardonné, et Dieu m'a donné le Saint-Esprit, par qui je connais Dieu. Alors, je suis rempli, donc, de cette foi-là. Alors, toute ma vie, je peux enseigner Dieu. Et je peux témoigner de ce Dieu avec hardiesse, parce que Dieu m'a donné ce qui est nécessaire pour ce faire. Je n'ai pas fait d'études pour cela, je n'ai pas fait de recherche pour cela. Dieu m'a donné, en fait, tout ce qui est nécessaire pour que je puisse faire ses œuvres sur cette terre. En fait, Dieu ne laisse pas comme des orphelins ceux qui croient en lui, l'Église et l'Ecclésia. Ecclésia, qu'est-ce que ça signifie? En fait, Dieu a appelé et ceux qui ont été appelés se rassemblent et ceux qui se sont rassemblés ont été choisis par Dieu. C'est ce qu'on appelle Ecclésia. Alors là, l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été sélectionné par Dieu. Vous êtes croyant, c'est parce que vous avez été choisi par Dieu. C'est ce que vous devez reconnaître. Dieu nous dit continuellement, reconnaissez Dieu. Ou bien, est-ce que vous me reniez? Si vous me reconnaissez, je vous reconnaîtrai aussi, mais si vous me reniez, je vous renierai aussi. Alors Dieu nous demande donc de le reconnaître. Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent qui je suis? Qu'est-ce que vous dites qui je suis? C'est ainsi que le Seigneur voulait que les gens le reconnaissent. Vous et moi, on peut se cultiver par une vie pieuse, ou bien par un entraînement acharné. Mais on ne peut pas plaire à Dieu avec les choses charnelles. Alors même si on fait des efforts, on patiente, on fait des efforts, même si on pleure, on ne peut rien obtenir. Les religions nous demandent de faire des efforts humains, c'est parce qu'il n'y a pas de grâce pour eux. Les religieux, eux, en fait, ils méditent, ils s'entraînent pour atteindre un certain objectif selon leur propre philosophie. Mais nous, en fait, on ne peut pas se renier nous-mêmes. Seul le sang Jésus peut nous permettre de nous renier et seul le Saint-Esprit nous permet de renier notre vieil homme. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa grande grâce et il nous a ainsi choisis. Et qu'est-ce que l'Église choisie par Dieu? Jésus est la tête de l'Église, et l'Église constitue son corps. La tête, la forme de la tête est différente de celle des autres parties du corps, mais tout est dans la tête. La connaissance est dans la tête, les émotions sont aussi dans la tête. Tout est dans la tête. Et c'est la tête qui écoute, c'est la tête qui entend, c'est la tête qui pense. Voilà. Donc, c'est la tête qui décide aussi. Et ensuite, si la tête fonctionne d'une telle manière, les autres parties du corps fonctionnent selon les indications données par la tête. Les ongles ou les doigts, les autres parties du corps fonctionnent et bougent selon les indications données par la tête. Lorsqu'on meurt, son cœur se paralyse. Je suis allé à l'hôpital parce que j'ai entendu dire que un membre de l'Église est mort. Mais lorsque je le vois, son cœur se battait. Alors j'ai demandé à mes saints, son cœur se bat encore? Mais ce médecin a dit, non, il est mort. On connaît l'heure exacte de sa mort. Et c'est parce que sa tête ne fonctionnait plus. C'est pourquoi il est mort. le cœur peut continuer de se battre même si la tête ne fonctionne plus. Il y a eu quelqu'un qui était mort, dont le cœur se battait pendant 30 jours dans la tombe. Donc c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Alors si Jésus est mort sur la croix, nous sommes aussi morts. Même si notre cœur se bat encore, nous sommes déjà morts si nous appartenons à Jésus, si nous sommes les membres de son corps. Si notre tête est morte, nous sommes aussi morts. Si la tête est en vie, nous sommes aussi en vie. Ainsi, le Christ et nous sont un. Donc, nous agissons et selon les indications données par la tête. De la même manière, l'Église doit fonctionner selon les indications données par Jésus, qui est sa tête. Donc, l'Église doit fonctionner selon la volonté de Dieu. Alors, cela signifie qu'on ne fonctionne pas, on ne bouge pas selon nos propres sentiments, selon notre propre humeur. Et je ne parle pas maintenant de la culture de ce monde. Est-ce qu'on fait la volonté de Jésus-Christ ou pas? C'est ça la question. Jésus-Christ est venu dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde? Il a fait la volonté de Dieu le Père, selon laquelle il a versé son sang, il nous a sanctifiés, et il a été ressuscité, et il nous a versé le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit et il nous a envoyé sa parole. Alors, on comprend la parole de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la vérité. On écoute la parole par le Saint-Esprit. Alors, le sermon qu'on écoute à l'Église transcende notre raison, notre bon sens. Et en fait, par le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous faisons? C'est de croire. Il ne faut pas essayer de comprendre la parole de Dieu lorsqu'on l'écoute, parce que ce que nous faisons, ce n'est pas de comprendre la parole de Dieu, c'est croire en la parole de Dieu. C'est croire en la parole de Dieu. Par exemple, lorsqu'on fait bouger une vache, par exemple, cette vache écoute nos indications et alors elle bouge. Mais en fait, elle n'essaie pas de se raisonner pour comprendre son maître, en fait. Alors, quelqu'un voulait lire la Bible en anglais, mais lorsque je le vois, en fait, il ne comprend pas bien l'anglais. Vous prétendez être intelligent et à l'Église, mais cette attitude est inutile. Il faut que nous fassions ce qui a été indiqué par Jésus-Christ. Puisque Jésus a versé son sang, il faut que nous soyons purifiés, sanctifiés par ce sang-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Et tous les ustensiles du sanctuaire sont sanctifiés par le sang. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Alors, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons influencés par le Saint-Esprit. Nous sommes tous le corps de Jésus-Christ. Alors, chacun de nous constitue les membres de ce corps. C'est-à-dire que nous sommes le nez, la bouche, les pieds, de Jésus. Et il faut que chaque membre du corps humain fonctionne de manière normale. Sinon, c'est problématique. Alors, j'ai vu quelqu'un dont les yeux ont grandi. Alors, je lui ai dit, vos yeux sont devenus très jolis. Alors, cette personne m'a dit, il a fait une opération. Lorsque j'étais petit, il y a eu une maladie qui fait souffrir les mains. Et alors, s'il fait froid, la souffrance est devenue très grande. Donc, si une seule partie du corps humain est malade, tout le corps est malade. Et alors il faut que toutes les parties du corps soient donc en paix et en bon état. Nous formons le corps de Jésus-Christ en tant que partie de son corps. Il faut que chaque partie du corps humain fonctionne de manière normale et correcte. Sinon, il y aura un problème. Alors, si nous ne fonctionnons pas de manière correcte en tant que partie du corps de Jésus, nous serons jugés par Dieu. Donc, si nous venons à l'Église, il y a diverses sortes de personnes. Certains ont leadership, certains ont mené la vie de la foi pendant longtemps. Donc, on peut les voir pour voir l'exemple de la foi. Et nous pouvons les imiter. Alors, plus la période de la vie de la foi est longue, plus on doit être exemplaire et parfait. À ce moment-là, on pourra influencer les autres de manière positive. Mais si ne vivons pas de manière correcte, si nous ne menons pas la vie de la foi de manière normale et correcte, l'Église peut tomber malade. Moi, pendant plusieurs décennies, je mène le pastorat. Alors, chaque année, je nomme des ministres, des diacres ou des anciens. Il y a les anciens dans notre église. Il y a les diacres consacrés. Il y a aussi les diacres et diaconesses. Il y a aussi les conseillères. Dans les autres dénominations, dans les autres églises, il y a aussi des conseillères. La conseillère est appelée en coréen Kwonsa. Et dans les autres dénominations, on utilise le mot Sa qui signifie le noble, personne noble. Donc on nomme les conseillères pour les respecter en fait. Hein. Mais dans notre église, on utilise le mot, le caractère chinois Sa qui signifie le maître, hein, l'enseignant. C'est donc les conseillères de notre église doivent montrer l'exemple, enseigner les autres et diriger les autres. Et les ministres de notre Église ont beaucoup peigné, notamment dans le passé. Et alors, ces ministres ont fait le séminaire aussi. Et ces ministres font beaucoup de choses pour l'Église. Mais si elles se vieillissent, elles ne peuvent pas agir comme les jeunes gens. Mais elles ont fait beaucoup d'expériences. Et ils ont donc, ils possèdent beaucoup de savoir-faire. Donc, alors, je les nomme comme conseillères pour qu'elles puissent déployer leurs compétences, parce qu'elles ont beaucoup d'expérience, elles ont beaucoup de savoir-faire. Alors, ceci doit être utilisé pour l'Église. Donc, je les ai nommés comme conseillères. Donc, elles sont exemplaires, notamment les femmes des anciens ou les ministres. Mais ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut être conseillère. Hein. Même une femme la femme d'un ancien, si elle est indifférente des affaires de l'Église, si elle n'a pas exemplaire, si elle n'a pas montré une bonne foi, elle ne peut pas devenir conseillère. Hein. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous êtes la lumière du monde. Il faut que le monde soit sauvé en voyant votre bonne œuvre. Donc, il faut qu'on soit la lumière de ce monde. Donc, même si on est une femme d'un ancien, si elle n'est pas exemplaire, elle peut ne pas être nommée conseillère. Alors, la personne en question peut être tomber en tentation, hein, parce qu'elle n'est pas nommée conseillère. mais il doit accepter la situation parce que nous sommes tous les membres de l'Église et son arc. L'Église n'est pas un lieu qui vous donne l'honneur, qui vous distribue l'honneur. Ce n'est pas l'Église. Si vous n'êtes pas, même si vous êtes la femme d'un ancien, mais si vous n'êtes pas nommée conseillère de l'Église, il faut que vous vous repentiez. Alors l'année prochaine, vous pourrez être nommée conseillère. Il faut que vous fassiez un service, beaucoup de services bénévoles à l'Église. Il faut que vous fassiez la dédication à l'Église pour pouvoir devenir conseillère. Il ne faut pas tomber en tentation. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un est tombé en tentation parce qu'elle n'a pas été nommée conseillère. Mais en fait, je ne peux pas donner le titre de conseillère à n'importe quelle personne. Oui, en fait, les lycéens qui doivent passer l'examen d'entrée à l'université, certains d'entre eux n'ont pas fait d'études, alors ils ne sont pas qualifiés, en fait, et alors ils échouent dans l'examen. Et s'ils ne font pas des efforts personnels, alors c'est la même chose pour la nomination des conseillères. Si vous n'êtes pas qualifié, si vous n'avez pas de qualification, si vous ne faites pas les critères, vous ne pouvez pas devenir conseillère. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut être nommée conseillère. Nous sommes tous les membres de l'Église, du corps de Jésus-Christ. Alors, il faut que nous soyons utiles à l'Église. Il faut que nous soyons nécessaires à l'Église. C'est ce que nous devons penser. C'est ce que nous devons réfléchir. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour se reposer en nous. Le Saint-Esprit est venu en nous pour agir, pour nous conduire. Le Saint-Esprit agit là où se trouve la parole de Dieu. Donc, il faut que nous soyons remplis de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons vraiment de la parole de Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit peut nous transformer à un moment donné. Et il va agir fortement en nous lorsque nous possédons la parole de Dieu. Alors, si vous êtes rempli de fidélité, si vous êtes rempli de la foi du Saint-Esprit, vous pourrez être reconnu par les hommes aussi. Hein? À ce moment-là, vous pourrez devenir conseillère, par exemple. Lorsqu'on se tient devant le Seigneur Jésus, on sera jugé et alors le Seigneur va faire la distinction entre le blé et l'ivraie. Le royaume des cieux est semblable à un filet. Alors, on prendra les bons poissons et on jettera en dehors les mauvais poissons. Et c'est ce qu'a Jésus, hein. C'est ce qu'a dit Jésus directement. Est-ce que vous pouvez être choisi par Jésus ou pas? Est-ce que vous êtes bon poisson ou mauvais poisson? Même si vous êtes entré dans le filet, si vous êtes mauvais poisson, vous ne pouvez qu'être abandonné par Jésus. Le blé et l'ivraie vivent ensemble dans le même champ, mais ils seront distingués au dernier jour, lors de la récolte. C'est pourquoi la Bible nous dit avec insistance de devenir le blé. Et il ne faut pas porter le même jeu avec les païens, parce que la justice et l'injustice ne peuvent pas être ensemble. Et vous êtes le temple de Dieu qui est saint. C'est la raison pour laquelle il faut que nous fassions beaucoup d'efforts personnels pour devenir une maison en or. Il faut être très zélé lorsqu'on mène la vie de la foi. Lorsque j'ai mangé avec quelqu'un, il m'a demandé de prier avant de manger. Lui, il a été atteint d'une maladie Parkinson, qui est appelée Parkinson, alors il tremblait lorsqu'il mangeait. C'est parce que certains membres de son corps sont tombés malades. Si un seul membre du corps est tombé malade, on peut être paralysé. Tout le corps peut être paralysé. Donc, si une seule partie du corps est tombée malade, tout le corps devient inutile. Alors, si les yeux sont en panne, tout le corps est en obscurité. Et alors, tout le corps est devenu inutile. Alors, est-ce que vous êtes un membre du corps de Jésus-Christ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire en tant que membre de l'Église? Est-ce que vous allez vivre d'une telle sorte? Ces jours-ci, on se maquille bien, on se décore, devenir joli. Mais alors vous êtes membre de Jésus-Christ. Alors il faut que vous montriez votre beauté à Dieu. Alors pour cela, il faut faire des efforts personnels. Et en tant que membre de l'Église, son arc, il faut que nous soyons parfaits. À ce moment-là, cette Église va croître et glorifier Dieu le Père. Alors, qu'est-ce que l'Église? Pourquoi l'Église doit prospérer? Verset 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous? Éphésiens chapitre 1, verset 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous? Alors, au commencement, Dieu a créé toutes choses. C'est lui qui domine toutes choses. Alors, qu'est-ce que l'Église? L'Église est la plénitude qui remplit tout en tous. Dans les églises, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas la philosophie, il n'y a rien dans l'Église. Et qui est le maître de l'Église? Il n'y a que Jésus qui est là. C'est Jésus-Christ envoyé par Dieu qui est le maître de l'Église. Seul Jésus est le maître de l'Église. Alors Jésus est venu dans le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il a versé son sang, il est monté dans les cieux, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et alors, lorsque nous avons rencontré Jésus pour la première fois, nous avons été sanctifiés et nous sommes nés nouveau par le Saint-Esprit. Alors, c'est un fait bien certain. Et alors, Jésus et la gloire de Jésus est entrée en nous. Qui est Jésus? Si nous croyons en Jésus, nous ne périrons pas. Alors, Dieu nous a donné Jésus pour que nous ne périssions pas. Et dans le monde, il y a beaucoup de belles maisons qui coûtent très cher, qui coûtent, par exemple, des milliards de won. Mais avec cet argent, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Avec l'autorité de ce monde, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Mais si nous avons la foi donnée par Dieu, et nous pourrons entrer au paradis avec cette foi-là, et nous serons ressuscités par cette foi-là, et nous allons donc atteindre les cieux avec cette foi-là, et avec laquelle nous pourrons obtenir la vie éternelle. Alors nous serons glorifiés donc dans le cadre de cette foi en tant qu'héritier de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut que nous possédions la foi. Seule la foi nous permet d'entrer dans le paradis, d'être ressuscités et d'atteindre la vie, d'obtenir la vie éternelle et d'être glorifiés dans les cieux en tant qu'enfants de Dieu. Voilà, c'est ça la plénitude. L'Église est la plénitude qui remplit tout en tous. Alors, tout a été créé pour le Fils. Et c'est ça la foi. par le Fils, pour le Fils, tout a été fait, tout a été créé. C'est ce qu'il y a dit dans Hébreux chapitre 1. Celui qui remplit tout en tous a créé toutes choses pour son Fils et par son Fils. Alors la plénitude qui remplit tout en tous, c'est l'Église. On demande à Dieu de nous bénir, alors nous voulons recevoir ces bénédictions, mais qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, qu'est-ce que c'est? Ça peut être l'argent, ça peut être la réussite, ça peut être la prospérité, ça peut être le bonheur, et c'est ce qu'on pense en fait. Mais l'Église, ce qui est la plénitude qui remplit tout en tous, alors il faut que nous contribuions à cette Église. À ce moment-là, on peut être heureux. Et en tant que membre de l'Église, il faut que nous fassions beaucoup d'efforts. À ce moment-là, il faut que nous portions beaucoup d'attention sur l'Église. À ce moment-là, nous pourrons être exaucés, nous pouvons être aimés par Dieu si nous contribuons au progrès, à la croissance de l'Église. Donc, la plénitude qui remplit tout en tous, c'est ça la bénédiction. Donc, l'Église est la plénitude qui remplit tout en tous. Alors, c'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Donc, si vous, pour vous être béni, il faut avoir une certaine relation avec l'Église. Si nous sommes éloignés de l'Église, nous serons éloignés de la bénédiction. Si nous sommes loin de l'Église, nous ne pourrons pas être heureux. Et alors, il faut que la plénitude qui remplit tout en tous doit nous remplir. Il faut que nos descendants, nos familles soient remplis de la bénédiction, de la plénitude qui remplit tout en tous. Répétez, Seigneur, que la plénitude qui remplit tout en tous, c'est-à-dire la bénédiction, vienne à moi. Seigneur, que la plénitude qui remplit tout en tous, c'est-à-dire la bénédiction, vienne à moi. Alors, qui peut recevoir cette bénédiction? Ce n'est pas le corps, ce n'est pas une émotion qui me permet d'obtenir cette bénédiction. C'est mon âme qui peut recevoir cette bénédiction. Seigneur, qui la plénitude qui remplit tout en tous, alors cette bénédiction vienne à mon âme, vienne aux âmes de mes descendants. Alors, il faut ainsi aspirer à cette bénédiction. Et lorsqu'on mène la vie de la foi, il faut que nous soyons très sérieux. Il faut accueillir un nouvel an avec une attitude exemplaire. Nous sommes tous les membres de l'Église. Même si nous sommes invisibles, même si ce que nous faisons est très minime, et il faut que vous contribuiez à l'Église. Levez-vous. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant l'année 2015? Est-ce que vous êtes qualifié pour être appelé saint? Et prions d'abord. Est-ce que je suis qualifié pour être appelé croyant? Repentez-vous, priez. Il faut que vous soyez sanctifié par le sang de Jésus. Il faut que vous deveniez croyant. Il faut que vous soyez vrai chrétien. Il faut que vous deveniez vrai chrétien. Soyez sincères. Et seulement dans l'Église, il y a la bénédiction qui remplit tout en tous. La bénédiction dont on parle dans le monde, c'est pas une vraie bénédiction. Hein. Cette bénédiction fait partie de la culture qu'on peut obtenir dans le monde. La bénédiction dont on parle dans le monde fait partie de la nature. Mais la plénitude qui remplit tout en tous, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, ne fait pas partie de la culture de ce monde. C'est le Saint-Esprit qui peut nous apporter cette bénédiction. Il faut que nous soyons donc remplis de cette bénédiction de Jésus. Il faut que cette bénédiction entre dans nos âmes. Seigneur, que ta gloire, que ta bénédiction, que la plénitude qui remplit tout en tous, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, la plénitude de Dieu, vienne à mon âme. Il faut que cette bénédiction vienne, entre dans mon âme, entre dans les âmes des membres de ma famille. Prions.